Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Sélection du Reader's Digest, Urbania et La Conversation. Au programme, pollution, avion versus voiture, lequel des deux est le plus nocif? Le meilleur 50$ que j'ai dépensé dans ma vie, un journal anti-anxiété. Et voici pourquoi les livres de croissance personnelle sont utiles et pourquoi certains les dénigrent. Bonne écoute!
Pollution, avion versus voiture, lequel des deux est le plus nocif? Un texte de Lavanya Sunkara, paru le 19 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Lorsqu'on voyage, il arrive de se demander quel moyen de transport privilégier afin d'être le plus éco-responsable possible. Voici ce qui est le pire pour l'environnement entre la pollution générée par un avion versus celle d'une voiture. Vous savez probablement déjà que prendre l'avion est nocif pour l'environnement, mais est-ce qu'une voiture est réellement mieux? Ces deux moyens de transport contribuent aux gaz à effet de serre, aggravant la crise climatique actuelle. Savoir si une méthode est meilleure pour l'environnement est assez compliqué. L'impact environnemental d'un moyen de transport dépend d'un grand nombre de facteurs. Savoir si la voiture est mieux que l'avion dépend de la distance parcourue, de la distance à parcourir pour se rendre à l'aéroport, du nombre de gens qui voyagent ensemble vers la même destination, que ce soit en avion ou en voiture, l'efficacité énergétique du moyen de transport, etc. explique Sandra Goldmark, responsable du développement durable du Barnard College de New York et de ses actions climatiques. Chaque action individuelle peut faire une différence. Voici donc des conseils d'experts pour faire des choix de voyage plus judicieux et réduire votre empreinte carbone. Comparaison des émissions de gaz à effet de serre. Un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, basé sur des données de 2016, note que le tourisme libère 5% de toutes les émissions mondiales de dioxyde de carbone, CO2, liées à l'énergie, les trois quarts de ces gaz à effet de serre étant générés par les transports. L'Environmental Protection Agency, EPA, souligne qu'un véhicule de tourisme typique émet environ 4,6 tonnes métriques de dioxyde de carbone par an. Comparons maintenant ces moyens de transport. Un vol aller-retour en classe économique de New York à Los Angeles produit environ 0,62 tonnes de CO2 par passager, selon le calculateur de carbone de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, de l'ONU. Le même itinéraire, lorsqu'il est parcouru en voiture, entraînera la libération de 1,26 tonnes d'émissions de carbone. Ces calculs sont basés sur la libération estimée par l'EPA de 257 grammes de CO2 par kilomètre parcouru avec un véhicule moyen consommant 13 litres au 100 km. Ainsi, en comparant les émissions par personne, il peut nous sembler que prendre l'avion est mieux pour l'environnement que de prendre sa voiture. Toutefois, plus il y a de personnes qui partagent le même trajet, plus les émissions par personne sont réduites. De la sorte, si vous n'avez aucun passager à bord et que vous avez beaucoup de routes à parcourir, mieux vaut prendre l'avion. Essentiellement, Un vol de longue durée libère l'équivalent de 14 % des émissions annuelles d'une voiture moyenne. Comparons donc encore une fois ces moyens de transport avec différentes données. Si vous souhaitez faire l'aller-retour de Montréal à Montjoly en avion, les émissions libérées seront d'environ 0,36 tonnes par personne. En voiture, le même trajet libérera 0,23 tonnes par véhicule, ce qui réduit considérablement les émissions par passager. Faire du covoiturage. Évidemment, si vous conduisez une voiture électrique ou hybride, la question se pose à peine. Si vous possédez une petite voiture très économe en carburant et que vous faites du covoiturage, il vaut mieux prendre votre véhicule lorsqu'il s'agit de réduire votre empreinte carbone. Pour un trajet relativement court, 480 à 805 km, l'idéal est d'utiliser un véhicule économe en carburant, hybride ou électrique, en faisant du covoiturage, explique l'ancienne responsable de l'EPA, Jeannette McCabe, aujourd'hui directrice de l'Institut de la résilience environnementale de l'Université d'Indiana. Sans surprise, une voiture hybride ou électrique émet bien moins de dioxyde de carbone par passager par kilomètre qu'une voiture diesel ou à essence. Sandra Goldmark fait écho à ce sentiment. Les voyages en avion sont une cause importante d'émissions de gaz à effet de serre émis par la population, les entreprises et les organisations. Outre les voyages en avion, la meilleure option reste les moyens de transport à plusieurs passagers comme le train et l'autobus, puisqu'en plus des gaz à effet de serre, un avion libère des oxydes d'azote, des oxydes de soufre, des hydrocarbures et des particules de suie, selon l'Environmental and Energy Study Institute. Ces polluants, ainsi que les émissions émises lors du décollage et de l'atterrissage, contribuent à rendre les trajets en avion moins respectueux de l'environnement. Prendre l'avion avec modération. Si vous décidez de prendre l'avion pour vos vacances estivales ou lorsque vous rendez visite à votre famille pendant les fêtes, ne vous sentez pas coupable. Les personnes qui effectuent plusieurs allers-retours par année contribuent bien davantage aux émissions de gaz à effet de serre néfastes pour la couche d'ozone. Aux États-Unis, les Américains prennent l'avion en moyenne 14 fois par année, relativise Dan Rutherford, directeur de l'aviation au Conseil international sur le transport propre, ICCT. Première classe et jet privé. Avant de surclasser votre billet, considérez ceci. Voler en première classe est plus nocif pour l'environnement que d'être en classe économique. Selon une étude menée par la Banque mondiale en 2013, les émissions liées à un vol sont 3 fois plus importantes en classe affaires et encore plus en première classe qu'en classe économique. La principale raison pour laquelle l'empreinte carbone par voyageur par distance parcourue est plus grande en classe affaires ou en première classe, c'est que leur siège occupe une surface au sol supérieure à celle habituelle, explique le rapport. Les vols privés sont encore pires. Bien que la quantité de carburant brûlé et, par conséquent, de CO2 émis soit bien inférieure à celle d'un jet commercial, de manière générale, il y aura beaucoup moins de personnes à bord, précise Ellen Coffey, journaliste de voyage. Certaines estimations disent que les jets privés produisent 10 fois plus de carbone par passager, ajoute-t-elle. Prendre un avion commercial pendant la COVID-19 comporte non seulement un risque inhérent d'infection, mais est bien pire pour la planète en raison du nombre réduit de passagers. Faire un vol avec un seul passager, comme ce qui s'est malheureusement produit en 2019 avec Delta Airlines, est terrible pour l'environnement, déclare Sandra Goldmark. Vol court versus vol long. Un long vol est moins néfaste pour l'environnement et la couche d'ozone qu'un vol court ou qu'un vol comprenant plusieurs escales. Une grande partie du carburant est consommée pendant le décollage et à l'atterrissage, donc plus la distance parcourue est grande, plus la charge relative de consommation de carburant du décollage et de l'atterrissage est faible sur l'ensemble du vol, explique Nicolas Müller, professeur d'économie, d'ingénierie et de politique publique à la Tepper School of Business, l'école de commerce de l'Université Carnegie Mellon en Pennsylvanie. Vous écoutez Pollution, avion versus voiture, lequel des deux est le plus nocif? Un texte de Lavanya Sunkara, paru le 19 août 2022 dans le magazine du Reader's Digest. Un rapport de la NASA, publié en 2010, indique d'ailleurs que le quart des émissions de carbone des avions sont émis lors de l'atterrissage et du décollage, autrement dit, lorsque les roues de l'avion sont sorties. Janet McCabe recommande de prioriser les vols directs et d'éviter les escales. De plus, les avions utilisés pour des distances plus courtes sont généralement plus petits et ne transportent pas autant de passagers. Les émissions de gaz à effet de serre sont alors réparties entre moins d'individus. Alternative à la voiture et à l'avion. Le moyen le plus éco-responsable d'arriver à destination n'est peut-être pas la voiture ni l'avion. Selon un rapport de l'ICCT, avec des trajets similaires, un avion atteint 15,6 km par litre par personne, alors que les trains et les voitures atteignent respectivement 18,2 km par litre par personne et 18,9 km par litre par personne. Ce sont les bus interurbains qui sont de loin les plus efficaces, avec 54,4 km par litre par personne, les grands gagnants en termes d'efficacité par rapport aux voitures et aux avions. En fait, la seule fois où une voiture devient plus écologique, c'est lorsqu'il s'agit d'un véhicule hybride ou électrique transportant au moins 3 ou 4 passagers. Si vous voyagez en Europe ou dans un pays proposant des trains intra-urbains, voyager en train est le moyen de transport le plus efficace et le plus écologique, d'autant plus que certains d'entre eux fonctionnent à l'électricité. Les voyages en train génèrent généralement beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre par passager que les voyages en avion, termine John Opperman, directeur général de l'initiative Jour de la Terre. Réduire davantage votre empreinte carbone. Si vous souhaitez être plus respectueux de l'environnement lors de votre prochain voyage, il existe de multiples autres moyens de réduire votre empreinte carbone. Par exemple, utilisez votre véhicule qui consomme le moins d'essence lors de votre prochain voyage en famille. Laissez la camionnette ou le VUS à la maison. Même si vous voyagez avec des enfants, suggère le spécialiste du transport durable Michael Sivak, œuvrant à l'Institut de recherche sur les transports de l'Université du Michigan. Vous pourriez aussi envisager de louer une voiture électrique. Dans de nombreux cas, les économies réalisées sur l'essence compenseront le coût de la location, note Samantha Bray, directrice générale du Center for Responsible Travel. Pour les voyages en avion, Samantha Bray recommande également de réserver auprès de compagnies aériennes qui utilisent du biocarburant. Le biocarburant provient de sources naturelles, comme les huiles naturelles non comestibles et les déchets agricoles. À titre d'exemple, depuis 2016, United Airlines utilise du biocarburant d'aviation durable dans ses avions en provenance de Los Angeles. Samantha Bray exhorte également les voyageurs à rechercher et à réserver des vols à bord d'avions plus grands et ou plus récents, puisqu'ils sont plus économes en carburant. Compensation des émissions de carbone. Compenser ses émissions de gaz à effet de serre et éviter d'en émettre sont deux actions complètement différentes, martèle Nicolas Muller. Vous pouvez compenser vos émissions en donnant de l'argent au développement d'alternatives énergétiques propres, tels que des projets axés sur la replantation ou la conservation des forêts ou la construction de parcs éoliens, par exemple. La première étape consiste à calculer votre empreinte carbone. Utilisez les calculatrices d'émissions de dioxyde de carbone de la Direction générale de l'aviation civile de France ou encore du ministère de l'Environnement du Québec afin de cibler votre empreinte carbone. Ensuite, il est possible d'acheter des compensations directement auprès de compagnies aériennes qui soutiennent la conservation communautaire, les projets de réduction des émissions de dioxyde de carbone et les entreprises durables. Il existe également des sites spécialisés qui proposent des programmes de compensation comme Carbone Boréal, carboneboreal.ucac.ca/compenser, un outil de recherche et de calcul de l'empreinte carbone, qui offre un programme de compensation depuis 2008. C'était Pollution, avion versus voiture, lequel des deux est le plus nocif? Un texte de Lavanya Sunkara, paru le 19 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest.
Les meilleurs 50 $ que j'ai dépensés dans ma vie, un journal anti-anxiété. Un texte de James Lynch paru le 14 mars 2022 dans le magazine Urbania. À force de perdre du temps à scroller sur notre feed, on peut parfois être récompensé et trouver un produit pertinent qui n'est pas une gogosse trouvée sur Wish. Un après-midi gris, la chance a souri à mon écœurant titre des primes Name It, quand j'ai vu une pub pour The Anti-Anxiety Notebook sur le site shop.therapynotebooks.com. Pour 50 $ incluant le shipping, je pouvais obtenir un beau journal relié qui aurait bien pu appartenir à un énième Bill Murray barbu d'un film de Wes Anderson. J'ai cliqué sur « Acheter » et quelques semaines plus tard, Post Canada me livrait cet objet qui allait changer ma vie. Un journal anti-anxiété, what the fuck? Le titre ne pourrait pas être plus clair. C'est un carnet de notes pour aider à contrer l'anxiété. Bien entendu, j'aurais pu acheter un cahier pour 5 $ aux gens coutus et faire du journaling comme un ado de 14 ans. Mini cadenas en su. Par contre, pour 50 $, vous ne payez pas seulement pour des pages blanches et un beau design. Développé par des psychologues, le carnet offre une structure basée sur la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Chaque entrée de journal a pour but de vous aider à suivre vos émotions et à prendre conscience de vos schémas de pensée pour vous aider à réduire votre anxiété et gérer votre stress. Grâce à 6 questions précises par entrée, Vous n'aurez même pas à stresser parce que vous ne savez pas quoi écrire. C'est un journal clé en main qui vous tient par la main. En plus de 100 entrées de journal, on retrouve des conseils de psychologue, une roue des émotions et un guide des mécanismes de pensée résultant de l'anxiété. Le journaling et la thérapie. Selon une étude, la tenue d'un journal peut être aussi efficace que la thérapie cognitivo-comportementale pour réduire le risque de dépression chez les jeunes adultes. Il y aurait même des bénéfices sur la santé physique. Comme le rapportent les chercheuses Karen A. Bakey et Kay Wilhelm, les personnes qui ont tenu un journal ont constaté une réduction de leur pression artérielle et une amélioration de leurs fonctions pulmonaires. En écrivant vos pensées, votre cerveau tombe dans un processus plus analytique qu'émotionnel. Cela vous permet donc de sortir de votre spirale d'anxiété et d'y faire face de manière appropriée, avec du recul. En gros, ça aide à vous ramener dans le moment présent. Mon expérience. J'avais déjà essayé le journaling après avoir lu le livre « The Artist's Way ». Par contre, devoir écrire 3 pages tous les matins me causait plus d'anxiété qu'autre chose. J'ai donc été agréablement surpris quand j'ai compris que « The Anti-Anxiety Notebook » n'est pas un outil qui doit nécessairement être utilisé au quotidien, mais seulement quand l'envie vous prend. Je l'ai essayé pour la première fois après une semaine un peu trop intense au travail. À ce moment-là, j'avais un véritable convoi de pensées anxiogènes qui occupaient ma tête et je ne pouvais ignorer leur klaxonnement. Au lieu de me mettre la tête dans le sable, j'ai répondu aux 6 questions. Après 15 minutes à décortiquer mes émotions, j'ai retrouvé mon calme. J'ai eu d'autres moments d'anxiété par la suite. Chaque fois, j'ai répondu aux 6 questions et le résultat était toujours le même. Je me sentais mieux, comme après une petite pof. En somme, investir $50 dans ce journal pourrait peut-être vous éviter quelques visites à $150 chez un ou une psy. C'était le meilleur $50 que j'ai dépensé dans ma vie, un journal anti-anxiété. Un texte de James Lynch paru le 14 mars 2022 dans le magazine Urbania. Voici pourquoi les livres de croissance personnelle sont utiles et pourquoi certains les dénigrent. Un texte de Denis Moneuse paru le 20 octobre 2020 dans le magazine La Conversation. Le développement personnel est à la mode. Les livres qui visent à aider le lecteur à changer sa vie ont du succès. Mais les dénigrer est aussi de bon ton. On dit qu'ils encouragent le narcissisme, poussent au repli sur soi, contaminent les rayons des librairies. Mais que cache le dédain de cette littérature? Étant moi-même sociologue, lecteur et auteur de livres classés en sociologie et d'autres en développement personnel, j'ai cherché à comprendre ce que l'on reproche à ces livres et ce que cherchent leurs lecteurs. Les pourfendeurs des livres de croissance personnelle reprochent à leurs auteurs de promouvoir des recettes dont l'efficacité reste à prouver en tirant de quelques exemples, voire d'un seul, le leur, des leçons de vie soi-disant universelles. Or, les sociologues s'appuient aussi parfois sur très peu de cas pour élaborer des théories, tout comme les philosophes tirent leur conception du monde de leurs réflexions personnelles. En fait, ces livres s'appuient souvent sur des travaux scientifiques. En outre, s'il est difficile de mesurer l'effet des thérapies, pensons aux controverses sur l'efficacité de la psychanalyse, il est encore plus ardu de mesurer celui de la lecture d'un livre. Pour les psychanalystes, ces livres n'iront jamais assez loin, car il est difficile d'accéder seul à son inconscient. Mais les témoignages et lettres de remerciements envoyés par les lecteurs aux auteurs, ainsi que les succès en librairie, en partie grâce au bouche-à-oreille, peuvent être considérés comme des signes que les lecteurs jugent ces livres utiles. Source de discussion et de soutien. Une autre critique faite à cette littérature est qu'elle favorise le narcissisme, puisqu'elle nous ferait croire que nous pouvons résoudre seuls tous nos problèmes. Si nous ne sommes pas heureux, ce serait donc uniquement de notre faute. Enfin, ces livres sont accusés de contribuer à une société individualiste et inégalitaire, car ils encourageraient leurs lecteurs à accepter leur sort. Au lieu de chercher des solutions collectives grâce à la politique ou au syndicalisme, par exemple, ces derniers feraient contre mauvaise fortune bon cœur. Mais si chacun gère mieux ses frustrations, c'est toute la société qui est gagnante, car moins violente. Ce type de lecture est source de discussion et de soutien. Les lecteurs prêtent leurs livres à des amis, font preuve de solidarité, participent à des stages ou conférences où ils sympathisent avec de nouvelles personnes. Des racines dans la philosophie antique. Les lecteurs de développement personnel sont des personnes qui ont souvent vécu une brèche dans leur parcours de vie, comme une rupture ou un deuil. Ils cherchent à rebondir en se prenant en main. Ils lisent pour apprendre à mieux communiquer, aimer et pour chasser leurs vieux démons. Jalousie, peur, jugement. Par exemple, les lecteurs du défunt auteur Guy Corneau cherchent à quitter les rôles de victime, bourreau ou sauveur et à devenir de meilleurs pères. Personnellement, je ne vois ici que de belles intentions et valeurs. Ces citoyens n'apportent-ils pas plus à la société que ceux qui se complaisent dans leur malheur? Enfin, le développement personnel ne s'oppose pas aux lectures plus intellectuelles. Comme le montre le psychothérapeute Christophe André, le développement personnel tire ses racines dans la philosophie antique. Ce sont les mêmes questions. Quel est le sens de la vie? Comment se défaire de nos conditionnements? Les philosophes antiques et orientaux n'hésitaient pas à livrer leurs recommandations sur la façon de mener une bonne vie. Des préceptes antiques tels que « Deviens ce que tu es » et « Connais-toi toi-même » sont repris souvent dans les ouvrages de développement personnel. Il est aussi fort probable que les auteurs de livres de développement personnel et leurs détracteurs aient à peu près le même public. Et quand je croise une personne triste, déprimée ou en colère, je me sens plus utile en lui offrant un bon livre de développement personnel qu'un ouvrage de sociologie. C'était « Voici pourquoi les livres de croissance personnelle sont utiles et pourquoi certains les dénigrent », un texte de Denis Moneuse paru le 20 octobre 2020 dans le magazine La Conversation.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Luc Mercure à la lecture, André Lebeau à la recherche et Nicolas Zortman à la présentation et au montage.